Bonjour, alors moi c'est Denis, je suis membre du comité de soutien Vincenzo.
Bonjour, moi c'est Olivier, je suis aussi membre du comité de soutien Vincenzo.
Bonjour à tout le monde, moi c'est Vincent.
Donc je vais vous présenter les faits. Le jeudi 8 août 2019, Vincenzo Vecchi a été arrêté à Rochefort-en-Terre, où il vivait depuis 8 ans. Son arrestation a lieu sous deux mandats d'arrêt européens, les MAE. Il y en a un qui concernait Gênes 2001, le sommet anti-G8, et puis l'autre concernait Milan 2006. À Milan, il y avait une manifestation qui a été autorisée pour l'extrême droite d'un parti qui s'appelle Fiamma Tricolore, alors qu'elle aurait dû être interdite puisque l'apologie du fascisme est interdite en Italie. Une contre-manifestation a été déployée, elle a été interdite et Vincenzo Vecchi a été arrêté à ce moment-là. Le 9 août 2019, Vincenzo est donc conduit devant le procureur général près de la cour d'appel de Rennes et ne consent pas à sa remise en liberté. Donc de notre côté, à Rochefort-en-Terre, on s'organise et le comité de soutien est créé à partir du 9 et 10 août. Là, il y a déjà environ 80 personnes qui se réunissent pour déjà comprendre la situation et voir ce qui se passe. Ça signifie aussi que Vincenzo Vecchi était bien intégré à la vie locale et qu'il avait déjà tout un réseau d'amis, plus tous les amis qu'on a contactés. Donc on était assez nombreux pour comprendre la situation. Le 23 août, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes ordonnait deux suppléments d'information à la justice italienne concernant les deux MAE. On reviendra plus en détail plus tard. Le 15 novembre 2019, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes va déclarer sans objet le mandat d'arrêt européen concernant Milan. Là aussi, nous y reviendrons. Et puis, il a constaté aussi l'irrégularité de la procédure d'exécution du MAE à l'encontre de M. Vecchi et ordonne la remise en liberté immédiate de Vincenzo Vecchi. Ensuite, le 18 décembre, la chambre criminelle de la cour de cassation, puisqu'il y a eu le pourvoi en cassation de la part du parquet, cassait et annulait l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes concernant la procédure de Gênes. Et donc, il y a eu un renvoi devant le tribunal d'Angers, la cour d'appel d'Angers, qui sera donc pour ce 2 octobre de cette année.
Salut, moi c'est Vincent. Moi, je reviens sur les faits de 2001. À Gênes, en juillet 2001, il y a eu les sommets G8 et contre ces sommets, il y a eu une manifestation où il y avait 300 000 personnes manifestants. Et il y a eu des gros affrontements, etc., etc. Et il y a eu une forte répression policière. Tout à fait organisé, féroce et planifié. On peut se souvenir qu'il y a eu un mort qui s'appelait Carlo Giuliani. 600 arrestations. Il faut se souvenir aussi qu'il y a eu des épisodes de torture de la part des policières, notamment dans l'école Diaz et dans la caserne de Bolzaneto. Pour ces faits, la police italienne a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, notamment pour des faits de torture. À côté de ça, les policiers accusés de violences, tortures, etc., etc., ils ont été amnistiés. Et l'édit de Gênes, ce qu'on appelle l'édit de Gênes, c'est-à-dire les 10 dernières qui sont arrivées au procès et aux condamnations, ils ont eu au total 100 ans de prison.
Donc pour revenir sur ce que disait Vincent et notamment sur la disproportion des peines, à l'époque quand les policiers ont été jugés, ils ont été jugés pour des actes de droit commun parce que les actes de violence, de torture pardon, n'existaient pas dans le droit italien. Et c'est en fait la double condamnation de l'Italie par la Cour européenne des droits de l'homme en 2015 et 2017, condamnation pour actes de torture, qui a fait que le code italien a dû intégrer les actes de torture. Et c'est pour ça que les policiers n'avaient été condamnés que pour quelques années de prison qu'ils n'ont pas fait, alors que les 10 de Gênes avaient été condamnés pour des délits sur des biens et pas sur des personnes à plus de 100 ans.
Alors du coup, on peut continuer sur Milan 2006. Il faut savoir que Vincenzo Vecchi avait déjà purgé sa peine. Et donc le MAE émis par l'Italie était nul et non avenu, ce qui a été reconnu par la cour d'appel de Rennes. Alors ce qu'on peut voir déjà ici, c'est que la justice italienne instrumentalise le MAE à des fins politiques, puisque la question juridique n'a pas lieu d'être, vu que la peine avait été effectuée. Elle a été extrêmement déloyale vis-à-vis de la justice française, sachant que le MAE se base sur la loyauté des différents systèmes juridiques européens. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la condamnation de Vincenzo pour Milan et Gênes fonctionne sur une double inculpation, un double système. D'abord le concours moral et ensuite un délit qui s'appelle saccage et dévastation. Alors sur le concours moral, ça veut dire que la simple présence sur la manifestation est déjà une preuve de culpabilité, sans même prouver la participation à des faits de destruction de biens. Et le saccage et dévastation est une loi dite de Rocco, qui était le ministre sous Mussolini, qui a été ressortie à cette occasion pour faire des peines extrêmement lourdes sur des faits mineurs. Et c'est cette double combinaison qui fait que Vincenzo Vecchi et ses co-accusés, les 10 de Gênes, ont pris plus de 100 ans de prison. Cette peine de prison est donc très largement disproportionnée et le jugement est assez inique puisque d'un côté il y a des manifestants qui prennent des peines lourdes alors que la répression policière qui a été systématique, planifiée avec des actes de torture a été amnistiée. Certains policiers ont même eu certaines promotions. Donc c'est cette double mécanique qui est extrêmement pernicieuse. Et on voit que c'est aussi une procédure judiciaire qui est en train d'être mise en place un peu partout dans les pays européens. Et ça attaque le principe fondamental du droit à manifester. Et c'est donc cette combinaison-là qui rend cette loi liberticide pour nos droits individuels.
Ce qui est intéressant quand même à noter, donc, c'est que le mandat d'arrêt européen de Milan, comme disait Olivier, qui était caduque puisque la peine avait été exécutée, le parquet, en août, avait dit que pour le mandat d'arrêt européen de Gênes, il manquait des infos, donc il était d'accord sur la demande de complément d'information. Mais par contre, pour le parquet, c'était clair pour Milan, il fallait renvoyer directement Vincenzo Vecchi parce que les faits étaient là. Or, ce mandat d'arrêt était un faux, et donc ça pose vraiment question sur ces principes de loyauté entre les systèmes de justice.
Et on peut préciser aussi que c'est grâce au comité de soutien qui a été recherché les documents en Italie pour pouvoir prouver que la peine avait été exécutée. C'est grâce à ce travail commun avec les avocats que la justice a évité de faire une erreur judiciaire.
Pour ce qui concerne Milan, en 2006, pour contextualiser les faits, on est dans une ville médaille d'or pour la résistance. Donc on se voit autoriser une manifestation d'un groupe fasciste qui s'appelait à ce temps-là Fiamma Tricolore. Et il y a eu une contre-manifestation qui a été interdite par la police. Et suite à ça, il y a eu des affrontements entre contre-manifestants, manifestants et policiers avec des affrontements. Et là, on a été arrêté sur place, directement à la manifestation. Et donc, c'est ensuite à cette manifestation-là de Milan qu'il y a eu pour la première fois après une vingtaine d'années, et ils ont ressorti cette délit de saccage et dévastation. Ça passait en tribunal. Donc, c'est bien à partir de ces procès de Milan qui vont ressortir après très 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 longtemps cette typologie de délit qui s'appelle saccage et dévastation. Et donc, les procès des Gênes étant encore en cours pendant la manifestation de Milan, ils se serviront de cette sentence de Milan pour ouvrir la route à l'utilisation ensuite à Gênes et pour toutes les manifestations qui suivront jusqu'à aujourd'hui de cette typologie des délits qui s'appelle saccage et dévastation.
coup, maintenant, on peut aborder la question du MAE et les droits de la défense vis-à-vis de cette procédure juridique. Donc, le mandat d'arrêt européen résulte d'une décision cadre du Conseil de l'UE du 13 juin 2002. Et il sert essentiellement à mettre en harmonie les différents systèmes juridiques, mais d'un point de vue purement formel et administratif. Donc, comme on l'a dit, ça se base sur une loyauté entre les deux États, le pays émetteur, en l'occurrence l'Italie, et le pays exécuteur, en l'occurrence la France. Il y a 32 catégories d'infractions qui sont sans discussion possible. C'est des infractions telles que le terrorisme, la traite de personnes, etc., etc. Dans le cas de Vincenzo Vecchi et de bien d'autres, donc ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Et donc, le seul moyen de pouvoir se défendre est la question de pouvoir établir ce qu'on appelle le principe de la double incrimination, à savoir qu'une peine dans un pays doit trouver son équivalent dans le pays qui exécute le mandat d'arrêt européen au moment des faits. Donc ce principe-là devrait normalement complètement arrêter et stopper cette procédure, dans la mesure où une peine de délit comme a reçu Vincenzo Vecchi, pour une peine de 13 ans et quelques années, correspond à un crime de sang. Or là, aucune personne n'a été, a été victime, l'accusation ne porte que sur des biens matériels. Or cette peine-là n'existe pas en France. Donc selon ce principe-là, normalement, le MAE ne devrait pas aboutir, mais curieusement, il continue à être actif. Donc c'est pour ça que nous sommes assez inquiets vis-à-vis de ça. Ce qu'on peut dire aussi par rapport à la défense, c'est que normalement, il serait intéressant qu'il y ait une double défense, à savoir que la partie italienne et la partie française puissent être automatiquement mises en relation, sachant que le cas de Milan prouve que cette collaboration est nécessaire afin d'éviter des excès et des instrumentalisations, comme on l'a dit précédemment. Donc, si on en restait là, en fait, on aurait une justice française qui devient tout bonnement collaborationniste, puisqu'elle exécute un mandat d'arrêt sans même faire une instruction, et qu'avec l'émergence de certains pays autoritaires au sein de l'Union européenne, on voit qu'il y a une atteinte très forte sur nos libertés individuelles, notamment sur le droit de manifester et de marquer son opposition à un régime quel qu'il soit.
Je voulais juste revenir un petit peu sur les principes de base du MAE, parce qu'on a découvert un petit peu tout ça en explorant notamment les aspects juridiques. On a parlé donc du côté évident de manque de loyauté. Enfin, le principe du MAE est aussi basé sur le fait que quand il y a des faits condamnables dans la justice, par exemple là du pays émetteur en Italie, à l'époque les faits devaient être aussi condamnables dans le système juridique du pays exécuteur, donc la France, ce qui n'était pas le cas à l'époque, puisqu'on n'avait pas de loi dévastation et saccage en 2001. Et là, ça montre clairement qu'il y a un déséquilibre évident entre la défense et l'accusation, puisque là, c'est des éléments de base, normalement, que la défense, il n'y aurait même pas... Enfin, c'est un fait, ces deux principes-là ne sont pas appliqués, donc les mandats d'arrêt européens doivent être invalidés. Or, ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire que les droits de la défense sont difficilement entendables, alors que pour l'accusation, c'est tout de suite mis en place, quoi.
Oui, on peut aussi préciser, au regard du MAE, par rapport à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui a été signée lors du traité de Lisbonne par les États membres de l'Union européenne, qu'il y a au moins trois principes qu'on doit rappeler qui entrent en contradiction avec la procédure du MAE. Le premier, c'est l'atteinte aux libertés individuelles et présomption d'innocence, à savoir qu'avec l'introduction du concours moral, on a pu approuver la culpabilité. La simple présence sur les lieux font qu'on peut être inculpé. Le deuxième est le principe de l'égalité, à savoir que la loi doit être connue de tous. Or, en exhumant une loi ancienne de Mussolini, les manifestants n'étaient pas censés la connaître puisqu'elle a été réactivée pour Milan et ensuite pour Gênes, et c'est ça qui a ouvert le système répressif judiciaire après la répression policière. Et ensuite, il y a le principe de proportionnalité, à savoir qu'une peine ne doit pas être disproportionnée par rapport aux faits. Et on tenait aussi à rappeler que ce qui concerne Vincenzo Vecchi et les 10 de Gênes, ça ne concerne que des atteintes aux biens matériels et pas des atteintes aux personnes. Donc on voit bien qu'on est dans un cas de disproportion des peines par rapport aux accusations. Tout ça veut dire que, et ça nous amène à conclure sur le fait que les droits de la défense sont largement bafoués et que ça rentre dans un système de répression qui est couplé entre la répression policière et le système et l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que, en invoquant le concours moral et la loi de saccage et dévastation, la justice italienne s'est dotée d'un arsenal pour pouvoir sanctionner sévèrement les manifestants, donc d'attaquer ce droit fondamental de pouvoir manifester et de propager la terreur et empêcher les gens de pouvoir s'exprimer. Ce système-là n'est pas propre à l'Italie. C'est quelque chose qui est en cours aujourd'hui dans tous les pays européens, en tout cas en France, avec la loi anti-casseurs, on l'a déjà évoqué. Ce principe de concours moral fait que l'accusation n'a pu approuver des faits et que sur la simple interprétation d'une présence sur les lieux d'une manifestation, on peut être accusé. Du coup, si nous sommes mobilisés, c'est aussi parce que nous sommes inquiets sur notre avenir proche, à savoir que ce système-là se met en place dans les différents pays et que donc il faut être vigilant et que ce combat nous tient très à cœur. Par ailleurs, on tient aussi à remercier tous ceux qui nous ont soutenus. On a eu quand même un très grand élan de solidarité. Cela touche le monde des arts et des lettres, les sphères politiques aussi, organisations syndicales et autres associations. Mais surtout aussi tous les gens qui sont sur le territoire local et les nombreux comités de soutien sur la France et quelques pays étrangers comme la Belgique, l'Italie, l'Espagne, etc. Ceci nous réconforte dans notre combat du moment. Et nous remercions tout spécialement le comité d'Angers qui nous soutient très activement. Et comme le procès va se dérouler à Angers le 2 octobre à 14h, nous remercions vivement le dynamisme du comité d'Angers qui nous soutient depuis le début et se mobilise très fortement. Merci à eux et merci à vous.
Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus, on a plusieurs outils un petit peu de communication. Vous pourrez trouver beaucoup d'informations, pas seulement sur la situation avec Vincenzo, mais aussi sur Gênes, sur Milan. Donc on a le site www.comité-du-milieu-soutien-vincenzo.org. Là, un groupe Facebook aussi, @soutienvincenzo. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes curieux, parce qu'il y a plein d'infos qui sont assez importantes pour comprendre ce qui se joue en ce moment, pas seulement pour Vincenzo, pas seulement par rapport au MAE de Milan et de Gênes, mais en général sur justement cette combinaison des outils répressifs entre le système policier et le système judiciaire. Merci à vous.